Bon, alors la paracha cette semaine, c'est parachat Ré'é. Ré'é veut dire quoi? Et la Torah dit, comment c'est un peu différent que tout ce que nous connaissons. Normalement, la paracha commence « Vaidaber Hachem et Moïse ». Hachem qui parlera à Moïse en disant. Cette paracha nous parle directement et nous dit « Ré'é, Anochi noten lifnechem ayom bracha uklala. Vois, je donne devant vous aujourd'hui une bénédiction ». Une malédiction. Et ta bracha, la bénédiction viendra comment? Asher teshmu el mitzvot. Quand vous écouterez le mitzvot et vous l'appliquerez, là la bénédiction viendra. Et ve'akilala chas v'shalom, la malédiction. Imo teshmu el mitzvot Hashem lokechem. Si vous n'écouterez pas au mitzvot, au commandement que Hashem, l'Éternel vous a donné, ve'sartem min haderech, et vous allez dire la route et des commandements que Hashem vous a donné, voilà qu'est-ce qui va arriver. Là, cette bénédiction et cette malédiction, comment on le reçoit? Rashi explique que en rentrant en Israël, il y avait deux montagnes. Une montagne qui s'appelait Har Seir, l'autre montagne qui s'appelait Har Grizim, l'autre montagne qui s'appelait Har Eval. Là, il y avait 12 tribus. Il fallait diviser les 12 tribus en deux groupes. 6 montaient sur une autre montagne. Là, et le Lévi, ils étaient en bas. Et là, ils se tournaient vers la montagne de bénédiction, le Har Grizim qui était la montagne de bénédiction. Et il disait des bénédictions et tout le monde en bas répondait Amen. Et quand il s'est tourné à gauche, vers la montagne de la malédiction, il disait les malédictions, qu'est-ce qui arrive à quelqu'un qui ne suit pas le commandement d'Hachem? Et tout le monde répondait Amen. Jusqu'à aujourd'hui, ces deux montagnes-là existent et on peut voir une différence de sur les deux montagnes. Une est verte, pleine de gazon, pleine de herbes, pleine des arbres. C'est la montagne de Grizim, là où il y avait la bénédiction qui a été donnée il y a plus que 3500 ans. Et l'autre est vide, ça veut dire que c'est une montagne, c'est rien que de la terre, il n'y a rien, il n'y a pas de végétation, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'herbe. Ça veut dire que la bénédiction, la malédiction qui ont été déjà dit il y a 3500, ils sont toujours accomplis sur ces montagnes. Et c'est à nous à suivre aussi le commandement de la Torah de faire, ça veut dire de suivre tout ce que la Torah nous demande. Dans la paracha, il y a quelques thèmes, mais je crois, Bezat Hashem, aussi on peut montrer que tous ces thèmes se relient sur un thème, ça veut dire c'est plusieurs sujets, mais ils vont se relier sur un thème. Par exemple, le début de la paracha, la bénédiction et la malédiction. Après, dans la paracha, le prophète, quelqu'un qui s'élève un jour, il dit « Moi, je suis le prophète d'Israël ». Et malheureusement, il y en avait comme ça, que des prophètes qui étaient des faux prophètes et qui sont arrivés à tirer derrière eux beaucoup de peuples, beaucoup de notre peuple, qui les ont trompés quand c'est le Messie, et malheureusement beaucoup les ont suivis. À la fin, il s'est avéré que c'était des gens qui étaient des idolâtres, ils étaient juifs, mais c'était des idolâtres qui ont emmené un peuple à faire l'idolâtrie, malheureusement. Après, il nous parle dans la paracha de la chair et pas cachère. Vous vous rappelez que le livre de Varim, c'est un livre qui répète tout ce qui a été déjà dit dans les 4 précédents livres de la Torah. Alors, dans la paracha, au milieu de la paracha, il va parler de la nourriture cachère et pas cachère. Et à la fin, vers la fin de la paracha, on va parler de la tzedaka. La tzedaka, c'est bien de donner la charité, c'est bien d'aider aux pauvres, c'est bien de leur supporter. Quel est le lien entre tous ces thèmes-là? Alors, si on peut expliquer, Marin nous dit, quand un bébé doit descendre au monde, quand une âme d'un bébé, alors déjà 40 ans avant, il y a une décision, cette âme va se matcher avec l'autre âme, à cause de la nuit même, ou cette.
40 jours.
Avant la conception, 40 jours.
40 jours.
Ah,
vous avez dit.
Ah, non, 40 jours, 40 jours. 40 ans, il va être trop vieux, si c'est 40 jours. C'est 40 jours. 40 jours avant la conception d'un bébé, à cause beaucoup déjà, il le match avec, si c'est un garçon avec la fille, ou la fille avec le garçon, et le soir même, de la conception, à quoi on va décider de sur ce bébé, l'agmara, ce qui va devenir riche ou pauvre, fort ou faible, gros ou maigre, haut de taille, petit de taille. Tous les détails de ce bébé sont décidés le soir même de la conception par la cause beaucoup. Il y a un détail que la cause beaucoup laisse libre. C'est l'achat. S'il va être quelqu'un qui suit la Torah, s'il va être quelqu'un de bien, si quelqu'un qui suit le commandement, qui fait les mitzvot, ou Khazajan le contraire, c'est à Kajou Khou le laisse au bas. C'est-à-dire que personne ne peut dire qu'à Kajou m'a prédestiné à faire ce que je suis en train de faire. À Kajou Khou n'a rien prédestiné, c'est à toi à choisir. Et c'est pour ça qu'on remarque dans la paracha, c'est écrit Ré'é, voix, mais ça continue sous un forme pluriel. Ré'é, c'est en singulier, voix. Mais après, c'est écrit Nifem, je vends devant vous. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous parle comme l'ensemble du peuple d'Israël, mais il parle à chacun de nous individuellement. Il faut que tu vois où tu diriges. Maintenant, beaucoup de personnes, c'est une question très connue que beaucoup de personnes se posent. Si c'est tout, il sait déjà qu'est-ce que je vais faire d'ici dans 20 ans, ou d'ici jusqu'à la fin de 70 ans, 80 ans, 120 ans. Alors où est mon libre choix? C'est pas un libre choix, il sait déjà. Il a déjà programmé tout ce que je dois faire dans ma vie. Il sait déjà exactement à qui je vais me marier, qu'est-ce que je dois faire, mes enfants, mon travail, il sait tout. Alors où est le libre choix? Il dit, ça ne change rien. C'est qu'il y a quoi, je crois, il sait, ça ne change rien de notre action. Pour expliquer cela, alors ils expliquent, en Hongrie, il y avait un roi, il y avait un conseiller juif, c'était un rabbin, c'était Rabbi Jonathan Habschitz. C'était un très sage que le roi l'aimait beaucoup plus que vous aimiez. Un jour, le roi est venu chez lui, il lui dit, écoute, je sors en guerre, et maintenant, je veux que tu me dis, quand je vais conquérir cette ville sur laquelle je sors en guerre, dans quelle porte je vais rentrer? Ils ont quatre portes, un en nord, une porte en nord, une sud-ouest, ouais, est. Dis-moi par laquelle je vais rentrer. Mais il ne faut pas que tu te trompes, parce que je vais m'énerver. Donc, alors le rabbin lui pose la question, est-ce que je peux vous l'écrire sur un papier? Et le mettre dans une enveloppe, et quand vous retournerez, vous ouvrez l'enveloppe et vous voyez ceci. Alors on a dit, c'est bon, fais-le. Alors le rabbin a pris un bout de papier, il l'a écrit, il l'a mis dans une enveloppe, il dit, vous ne l'ouvrez pas avant de revenir. Quand vous reviendrez, on l'ouvrira, on va voir si j'avais raison. Le roi est parti en guerre, il a gagné. Là, il voulait rentrer dans la ville. Mais il a posé la question. Peut-être, si je rentre par la porte du nord, il a écrit le nord. Alors, je ne vais pas rentrer par le nord. Il voulait rentrer au sud, il a dit, mais peut-être il a écrit le sud, il ne voulait pas rentrer. Est-ce la même chose, ouest? Il a dit, je ne peux pas rentrer. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais dévoiler le mur dans une section du mur de terre, je vais rentrer là-bas. Et comme ça, c'est sûr qu'il lui écrira une de quatre portes qui se trouvent déjà. Il a défoncé le mur, il est rentré, il a gagné, il a retourné. Quand il est retourné, la première chose qui court, c'est l'enveloppe. Il veut voir qu'est-ce qui est écrit dans l'enveloppe. Il ouvre l'enveloppe, qu'est-ce qu'il voit? Il s'est écrit, vous n'aurez aucune des portes. Vous allez défoncer une des murs et vous allez rentrer. Tout de suite, il a été choqué, il a appelé le rabbin. Il dit, comment tu savais que je le fais? Il dit, non, je ne savais pas, parce que tout ce que je fais, quand nous on a un problème, on se réfère toujours à la Torah. Alors je me suis référé au livre du roi Salomon, dans Kohelet. Et c'est écrit là-bas que le roi ne rentre jamais par une porte. Toujours il défonce le mur. Alors je vous ai apporté un verset par le roi Salomon, le sage de tout homme. Et voilà, c'est exactement qu'est-ce que vous avez fait. Alors ici, avec cette histoire, ils expliquent la même chose. C'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu déjà a destiné avec qui on doit se marier. C'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu a destiné où je dois travailler. C'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu a destiné toutes mes envies. Ça, Akadosh ne dit pas que c'est ça qui doit être. Akadosh Baruch Hu le sait, mécrété. Qui veut dire que si tu décides de défoncer le mur, qui veut dire de changer tout ce plan, Akadosh Baruch Hu peut le changer. Rien que rapidement, si vous voulez le voir, on dit que 40 jours avant la conception de bébé, Akadosh Baruch Hu déjà prédestine marier avec qui? Ça, c'est déchangeable. Parce que Akadosh Baruch Hu, comment il match un garçon et une fille selon leurs actions? C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il voit déjà comment il va être ce garçon, il voit comment il va être cette fille, et selon le ce qu'Akadosh Baruch Hu sait, il le met ensemble déjà. Mais qu'est-ce qui arrive? Ce garçon n'est pas, ça veut dire, normalement, il ne devrait pas être religieux. Et cette fille aussi, normalement, il ne devrait pas être religieuse. Et après, un des deux a fait tchouva. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu va le laisser se marier? Non. Est-ce qu'il ne match plus? Non, il ne match plus. C'est ça? Ça ne marche plus. Alors qu'est-ce qu'il fait à Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu est obligé de changer le plan. C'est ça? Et travailler avec le fait qu'ils sont sur place. Qui veut dire quoi? Avec votre libre choix, vous avez défoncé un mur. Ça veut dire un plan qui avait pas fait par vous. Et maintenant, Akadosh Baruch Hu doit changer tout, faire un nouveau plan. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu sait que ça va arriver? Oui, il savait que ça va arriver. Il nous a laissé ça à vos mains. Ça veut dire si tu n'aurais rien fait, il aurait laissé les choses comme au plan A. Mais quand une des deux, ou nos deux, en fait plus, tu vois, Akadosh Baruch Hu prend le plan B qu'il a déjà aussi peut-être prévu, ça, mais ça ne change pas nous, parce que nous, tout ce qu'on fait, c'est nos actions qui, selon ça, Akadosh Baruch Hu travaille avec, mais lui, il sait déjà. Mais ça ne change pas notre manière de penser, ça ne change pas notre manière de libre choix, de choisir ce que nous voulons faire.
Pour les gens qui
ne se marient pas? Ça dépend. Ça dépend. Des fois, c'est à eux. Ça veut dire c'est leur choix. Je vais vous expliquer. Par exemple, il y a des gens qui cherchent trop. qui veut dire chercher, je ne trouve pas, mais en hébreu, il y a un proverbe en hébreu, je ne sais pas si ça existe en français, chaque marmite a son couvercle. C'est ça? C'est la chose. Alors on dit que c'est impossible qu'après je trouve à faire naître quelqu'un, ça veut dire qu'il a donné la chance à une âme de descendre sur terre et lui a pas mâché quelqu'un. Ça, c'est impossible. Selon quoi, c'est pour ça, c'est une des idées, pourquoi dans le groupe religieux, il tient que les enfants se marient jeunes. Pourquoi? Tant qu'on est jeune, on peut s'adapter à n'importe quoi. Plus qu'on prend l'âge, ça devient plus difficile parce que l'autre, ah, il est comme ça. Et aussi quand on dit qu'il ne faut pas se fréquenter trop longtemps, il y a des couples qui sortent 4 ans, 5 ans, 6 ans, et après 6 ans, ça casse. Pourquoi ça casse? Parce que, non, j'ai vu des défauts. Tandis qu'il n'y a pas personne qui est parfait. Ce garçon qui a vu le défaut, ou la fille qui a vu le défaut dans ce garçon, eux aussi, ils ne sont pas parfaits. Et ça, rien que le temps a fait qu'ils sont sortis. Tandis que s'ils seraient mariés, qu'est-ce qui serait arrivé? Ils auraient travaillé le défaut. Un homme et une femme, dans toute couple, il y a toujours un défaut quelque part. Mais on essaie de travailler. Alors, qui veut dire que c'est pas ça, ils cherchent le parfait n'existe pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à l'époque, il y avait de grands familles qui se mariaient sans voir la femme. Parce qu'ils ont dit, c'est pas une question de beauté physique ou pas, c'est une question de s'adapter. Adapter, tu peux t'adapter à n'importe qui, tant qu'il a de bonnes qualités. Tant que la personne a de bonnes qualités.
C'est la même chose que dans la finalement.
Oui, mais...
Il s'épouse la femme et il la
femme. C'est vrai, mais il faut être à un très haut niveau aujourd'hui pour le faire. C'est ça. Aujourd'hui, on cherche plus ou moins... qu'on cherche que la majorité des qualités se matchent. Ça veut dire que s'ils sont complètement les deux différents natures, c'est très difficile des fois de matcher les deux. Par exemple, il y a des garçons qui aiment sortir chaque soir à un restaurant, tout ça. La fille aime s'asseoir à la maison au vide. Ça va causer un problème dans un mariage. C'est pour ça que toutes ces choses-là, et se discutent durant, quand ils se fréquentent, de quelques fois qu'ils se fréquentent, ils parlent de ces choses-là pour voir si la majorité des choses matchent. Si ça marche, il ne faut pas chercher que 100% match, parce que ça ne va jamais arriver. Même un homme et une femme, après qu'ils sont mariés, après des années de mariage, ce n'est pas toujours que l'homme et la femme, ils aiment faire la même chose et ils aiment la même chose qu'ils veulent. Ça ne marche jamais, mais on s'adapte de deux côtés, Alors là, on voit que Akosh Baruch Hu laisse le libre choix pour l'homme, pour ce qu'on appelle la crainte du ciel, Yirat Shamayim. À quoi vit des chamans? Tout entre la coche beaucoup. Il décide de tout. Tu vas être riche, pauvre, ça. Comment? Tout se la crainte de celle à quoi je vous ne donne pas à une personne la chance de le nommer ou de le craindre. Ça, c'est à la personne lui-même de le faire. Maintenant, une autre chose que le Khami nous dit, Bader Shadam Rotselilech, Molichimoto. Dans le chemin qu'une personne veut aller, c'est là-bas qu'on va le diriger. Qui veut dire, tu veux aller vers le bon? On va te diriger vers le bon. Tu vas aller vers le mal, on t'ouvre les portes. On précise dans le langage de le Talmud, Bader Shadam Roselelech Molichimoto. Ça veut dire on le fait marcher. À Baletaer, tu viens pour te purifier, mais Saïm, on est pour te purifier. À Baletame, c'est quelqu'un qui veut s'impurifier, Potrimlo, on ouvre. Qui veut dire ouvre? Du ciel, ils ne vont pas t'aider pour te impurifier. Ils ne vont pas te le faire. Parce que Khad Shalom, à cause qu'on n'est pas intéressé, tu t'impurifies. Mais il va ouvrir les portes. Qui veut dire, les portes sont ouvertes, c'est à ta vie ce que tu veux faire. Tandis que quand tu veux te purifier, Akosh Baruch Hu te pousse. Et Akosh Baruch Hu est derrière toi pour t'aider à arriver au but que tu veux atteindre, avec tous les obstacles qui existent dans cette route, parce que le Yetzara, il devient très fort. Quand une personne veut faire une bonne action, le Yetzara est toujours là, mais des obstacles, mais Akosh Baruch Hu est toujours là pour nous aider à surmonter les obstacles. Je voulais ce soir vous dire deux petites histoires que j'ai lues, que je trouve qu'ils sont très beaux. Une histoire, c'est quelqu'un qui habitait avec son père. Et malheureusement, ils ont passé l'Holocauste. Et après un certain moment, le fils commençait à devenir un peu rebelle. Il ne voulait pas écouter son père, il ne voulait plus faire la religion, il ne voulait plus foutre. Alors, c'est de l'armée en Israël. Alors, il est parti en Israël, il a fait l'armée. Quand il a fait l'armée, aujourd'hui il y a une mode malheureusement que tous les soldats, quand ils terminent le service de 3 ans, ils vont en Inde. Ils vont en Inde. Inde, Singapour, Hong Kong. des drogues, de toutes sortes de bêtises, d'idolâtrie, de toutes sortes. C'est une forme de se détendre, soi-disant après 3 ans qu'ils ont travaillé et tout ça. Alors ils vont là-bas pour se détendre. Bon. Malheureusement, beaucoup tombent dans le goût, font l'idolâtrie, beaucoup s'attrapent sur toutes sortes de cultes, de mauvaises choses. Donc. Alors ce garçon-là, il est parti en Inde et son père ne voulait plus lui parler. Son père a dit, si tu vas là-bas, je ne te parle plus. Et malheureusement, le contact est complètement coupé. Il a rencontré une fille là-bas, israélienne aussi, qui a aussi fait le service de l'armée. Ils se sont amitiés et tout. Et il a décidé d'habiter là-bas. Après un an, il y a quelqu'un qui vient chez le garçon, il m'en dénonce. Il dit, de quoi? Il dit, j'ai écouté que ton père est décédé. Et on a amené le corps en Israël. Lui, ça lui a choqué. Malgré qu'il n'a pas parlé avec son père, ça lui a choqué quand même que son père est décédé. Alors il a décidé d'aller en Israël. Il est allé en Israël, il allait pèleriner son père et tout. Et ce jour-là, il a dit, si je suis en Israël, je vais aller au Kotel. Faire une petite prière au Kotel. Quelque chose lui a dit d'aller faire une prière. Il arrive au Kotel et il voit beaucoup de gens qui crient des petits papiers et qui mettent ça dans le mur, de vœux, de prières, toutes sortes de choses. Alors il a dit, lui, mettre un papier pour se dégager et dire à Kosh Boukou qu'est-ce qu'il pense. Alors il crie un petit papier, il le plie et là il essaie de rentrer le papier dans le mur. Vous savez, des fois c'est plein de papiers, on n'arrive pas où il faut chercher vraiment un petit trou où mettre. Il cherche, il n'arrive pas. Il n'arrive pas à trouver. À la fin il a dit, je le pousse au mur et c'est tout. Il pousse son papier dans le mur, il y a un papier qui tombe. Alors lui, il était curieux. Qu'est-ce qu'il y a dans ce monsieur qui était avant moi, qu'est-ce qu'il a écrit à Kosh Baruch? Alors il voulait voir, il a ouvert le papier. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit une prière. À Kosh Baruch, je te demande, mon fils, il a pris le mauvais chemin, il a choisi de laisser la tombe. Je te demande une prière que tu le fais revenir de Tchouva, signé qui? Le père de cet enfant. C'était son père. Il a été choqué, il a dit comment est-ce possible que tout le mur, tout le papier, rien que ce papier est tombé entre ses mains, il pourra. Donc il cherchait un rabbin pour qu'il l'explique. Alors il est tombé dans une yeshiva. Et on lui a dit, viens, prie avec nous mincha, et après on verra et tout. Il va et prie mincha, on lui dit, il y a un cours de Torah, suis le cours de Torah, après. Il suit le cours de Torah, après ils vont manger, et il a commencé à aimer cela. Alors il a dit, peut-être je resterai ici une semaine pour voir comment vont les choses. Il reste une semaine, et après une semaine, il décide de faire teshuva. Alors il a tout laissé de l'autre côté, l'Inde et tout, il a décidé de rester en Israël dans la teshuva. Or, c'était un garçon, et il s'est marié. Le roi Shiva a cherché un shidour pour lui. Il dit, j'ai une fille, j'ai trouvé une fille. Il dit, mais je fréquentais une fille en Inde, mais lui, maintenant j'ai une fille, la teshuva, tu peux, top. Alors le soir, il va rencontrer la fille, qui rencontre. Cette fille qui était avec en Inde, et cette fille lui a dit, jamais elle deviendra religieuse. Qu'est-ce qui t'arrive? Puis elle est partie, elle a décidé d'aller en Israël pour le chercher à lui, mais elle n'a pas trouvé. Alors il y a quelqu'un qui l'a invité pour un cours de Torah, et s'est attrapée elle aussi, et elle est devenue Bala Tchouva. Donc voilà, Kosh Baruchou Bader Shadam Rotselilech Molechim Oto. C'est pour que ce soit le hasard, c'est trop d'hasard pour une fois. Et ça, pour que lui va en Israël, il trouve le papier de son père. C'est vrai, c'est une vraie histoire. C'est ça? Alors pour dire, voilà, pour moi, Kosh Baruch Hu, quand quelqu'un a décidé déjà de prendre la route, c'est ça, la bonne route, à Kosh Baruch Hu va le guider, va l'emmener jusque là où ce qu'il faut qu'il arrive. Alors quand il voulait aller en Inde, à Kosh Baruch Hu lui a ouvert la porte, s'il voulait s'impurifier, mais quand il voulait retourner en Israël, il voulait faire Tchouva, à Kosh Baruch Hu l'a amené exactement là qu'il faut qu'il soit. Une autre histoire, c'est un directeur de banque en Israël. Un jour, lui aussi, il a assisté à un coup. Vous savez qu'en Israël, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent faire tchouva, mais ils ont honte. Parce qu'ils ont honte de la société, de leurs amis. Il y a un rabbin, il y a le Rav, c'est sûr que vous le connaissez, le Rav Ourizoar. Le Rav Ourizoar, c'est un comédien, c'est un des acteurs de cinéma le plus grand en Israël. Presque tout le monde le connaissait. Et là, le Rav, le jour qu'il a décidé de faire tchouva, il a dit la chose la plus difficile pour lui, c'était quoi? C'est mettre la kippa. Comment il peut se mettre en face de... Il habitait dans un quartier très riche, de gens, de comédiens, des acteurs, de cinéma et tout ça. Comment il peut rentrer avec une kippa? Il faut qu'il soit fou. Mais il a décidé de mettre la kippa où il l'a mis. Quand il est arrivé, comme c'était un comédien, hein, tout le monde comprend que. Non, qui l'a eu, qui plaisante, il fait. Alors il lui a demandé, qu'est-ce que tu fais, un film religieux maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Alors lui, il ne savait pas quoi dire, mais à quoi il fait dans la bouche. Et le tous, quand tout le monde l'entourait, il dit, vous savez, je vais remplir 10 000 dollars si je porte la kippa pour une semaine. Quand ils ont écouté ça, ils disent, ça va, alors, s'ils l'ont pied, mais sûr qu'il va mettre la kippa. Alors, il y a des gens même qui l'ont dit, mais dis-moi, où sont ces religieux-là? Moi aussi, je vais mettre la kippa pour 10 000 dollars pour une semaine. Après, il dit, tout est, c'est fini. Tout est fini. Et comme ça, parce qu'à cause de roule, il y a envers le port. Parce que la honte que des personnes ils ont, c'est une question de 1, 2, 3 jours. C'est comme la Gemara, le Midrash raconte à propos de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il avait honte au début de faire tshuva. Il avait 40 ans. Quand il a connu sa femme Rachel, il avait 40 ans, mais il avait honte de faire tshuva. Il dit, comment je vais faire maintenant tshuva et tout ça? Les gens vont me regarder, et surtout qu'il fallait qu'il aille à l'école pour apprendre le aleph bet. Il ne savait pas écrire. Alors, pour qu'il aille à l'école avec son petit-fils.
Qu'est-ce qu'il a fait pendant
40 ans? 40 ans, il était commerçant, il faisait toutes les choses.
Sans
écrire. C'était un berger.
C'est
ça, et il a hissé ce genre qui étudie la Torah. Il a hissé le genre qui a dit. Alors, à l'âge de 40 ans, recommencer sa vie, c'est un peu difficile. Ça, et la femme qui était sage, Rachel, sa femme Rachel qui était sage, il lui a dit, écoute, ça va durer quelques jours, et après on va te laisser, tranquille. Elle dit, non, j'ai honte, tu sais, apporte-moi ton âne.
Ton
âne. L'âne.
Oh, l'âne.
L'âne. Il a dit, apporte-moi ton âne, et je vais te montrer quelque chose. Qu'est-ce qu'il lui a montré? Elle a pris de la terre, elle a mis la terre sur le dos de l'âne. Après, elle a pris de la semence, de, je sais pas, de blé ou quoi que ce soit, elle a planté. Le lendemain, ça a commencé à pousser. Elle lui a dit, sors maintenant dans le marché et tourne comme ça avec l'âne. Tu vas voir combien de gens vont t'entourer. Il est sorti dans le marché. Les gens qui n'ont pas vu la terre, parce que la terre est le dos de l'âne, sans couleur, quand il est sorti, ils ont vu une âne avec de blé qui pousse sur l'âne. Ils étaient fascinés. Tout le marché se rassembla autour de lui. Comment tu as fait cela? Et sa femme lui dit, qu'est-ce que tu sais pas? Tout le monde m'a entouré, ils m'ont demandé des questions, et tout ça. Il dit, bon. Il dit, maintenant, demain, je veux que tu sors encore. Avec l'âne, comme ça, tu sors au marché. Ils sont au marché. Cette fois, rien que 50% de tous les gens qui sont venus hier, ils sont ramassés autour de lui. Alors, le lendemain, le troisième jour, il dit, sors encore. À peine 20 qui sont. Le quatrième jour, personne n'est venu. Pourquoi? Alors, lui, il est retourné, il dit, qu'est-ce que tu m'as montré? Il dit, tu vois, quelque chose de nouveau, tout le monde sont curieux, tout le monde savoir à quoi. Mais avec le temps, il dit la même chose. Le premier jour, tu vas mettre la kippa, les gens vont te poser des questions, comment ça se fait, qu'est-ce qui t'est arrivé? Le deuxième jour, moins, le troisième jour, moins. Tu vas t'habituer, c'est tout. Alors, ce directeur de banque que je vous ai dit, ce directeur, son problème, c'était comment mettre la kippa. Il voulait faire tshuva, mais il avait honte de mettre une kippa. Alors, il est rentré à la banque, et il avait la kippa. Mais il avait cette envie de mettre la kippa, il faisait des prières à Kadosh Baruch Hu, donne-moi la chance de mettre la kippa aujourd'hui. Mais la chance n'est pas arrivée. Maintenant, le problème, c'était à midi, il fallait qu'il se rende manger parce que alors il est resté dans son bureau. Il a son sandwich, il ouvre, il veut manger, mais il a un problème. Comment il va faire la bracha? Il faut mettre la kippa pour faire la motzi. Il faut en étirer la tédaïm. Et il ne peut pas. Et là, il commence à prier à Kadosh Baruch Hu, dit, Hachem, je ne mangerai pas. Mais il faut que tu mettes dans cette situation, parce que cette situation, c'est chaque jour maintenant. Comment je me lave les mains? Comment je fais la motzi? Et il prie Hachem. Tout d'un coup, il y a quelqu'un, un client de la banque qui rentre avec un grand sac. Il y avait de l'ouïe d'or qui voulait déposer dans la banque. Et il ne savait pas comment. Il y a un trou qui se forme dans le sac. Tout l'ouïe d'or se disperse par terre. Tout de suite, on donne l'ordre de fermer la banque pour que personne rentre et personne sort. Et tout le monde se met par courser l'ouïe d'or. Toutes les caissières sortent. Tout le monde se met par terre, il salisse, il ramasse. Alors lui, il sort aussi de son bureau, il commence à ramasser. Tout d'un coup, il a eu le courage, il a pris la kippa, il l'a mis sur sa tête, il a ramassé avec tout le monde. Maintenant, tout le monde l'a vu avec la kippa, mais ils n'ont pas fait attention parce qu'ils étaient trop occupés de ramasser le louis d'or. Quand c'était ça, ils sont habitués, ils n'ont même pas besoin. Là, depuis, il a continué à mettre la kippa pour dire que voilà qu'il voulait faire quelque chose. Et à Kadosh Baruch Hu l'a guidé, l'a aidé pour faire. Ça veut dire que c'est une question de volonté. Une question, quand on veut quelque chose, c'est sûr qu'il y aura des obstacles. Le Yetzara est toujours là pour mettre des obstacles. Mais Bader Shadam Otseleler, dans le chemin qu'on veut aller et se diriger, du ciel on va le diriger, on va lui montrer le chemin. Dans le Talmud, il y a aussi une histoire comme ça. Dans le Talmud, il y a un rabbin qui s'appelait Ilish. Et ce rabbin Elish, il a été capturé par de non-juifs. Il a été né en montagne avec un autre goy. Ils étaient deux. Ils étaient un juif et un non-juif qui ont été capturés par un groupe de brigands. Maintenant, Elish qui était là-bas, un jour, après quelques jours, il voit un corbeau qui vient, qui tourne autour de lui, de l'autre prisonnier, et qui crie. Alors, il dit à l'autre prisonnier, est-ce que tu comprends qu'est-ce que le voisin est en train de dire? Il dit oui. Moi, j'ai appris un peu le langage des animaux. Le corbeau est en train de dire que Elish doit se sauver. Et quand il va se sauver, il va réussir. Alors, il lui a dit, toi, tu n'es pas caché, alors je ne peux pas écouter un corbeau. Il y a le choses comme ça. Quelques heures, il y a une colombe qui vient. Et la colombe, elle fait un bruit, elle tourne. Alors, il lui pose la question, alors, qu'est-ce que tu as appris à propos de la colombe? Est-ce que tu comprends qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Il dit, oui. La colombe est en train de dire qu'Elish doit se sauver, et s'il se sauve, il va réussir. Alors, il lui dit, la colombe, c'est cachère. Alors, je vais écouter la colombe, et il se sauve, bon, Hachem est arrivé chez lui, rien de mal lui est arrivé. Ça, c'est le passage de Talmud. Le commentateur Rabbi Akiva pose une question. Est-ce qu'il lui-même, est-ce qu'il comprenait le langage des animaux ou pas? C'est ça? Apparemment, non. Pourquoi il a demandé l'autre prisonnier? Pourquoi il a demandé l'autre captif? Pourquoi il a demandé, est-ce que tu comprends qu'est-ce que le corbeau dit? Est-ce que tu comprends qu'est-ce que la colombe dit? C'est ça? Alors, il dit qu'il a demandé. Apparemment, il n'a pas compris le langage de ces oiseaux. Mais le Maharsha, il dit non, c'est pas vrai. Il savait très bien qu'est-ce que le corbeau a dit et il savait très bien qu'est-ce que la colombe a dit. Ça lui demande l'autre captif en lui demandant qu'est-ce qu'il dit le corbeau et qu'est-ce qu'il y a la colombe, qu'il y a une règle. Une personne entend qu'est-ce qu'il veut entendre. Et là, quand il a entendu le corbeau dire il faut que tu te sors et tu vas réussir, il a dit je l'entends parce que je veux l'entendre. Alors là, il voulait être sûr. C'est ça que le corbeau dit, il a demandé l'autre. Et quand il a dit ça, il dit peut-être c'est le hasard. Il a dit le corbeau c'est pas caché, il faut pas que je l'écoute. Mais quand c'est répété la deuxième fois, il a entendu, il a compris, pour être sûr, il a demandé à l'autre pour ne pas dire qu'il a entendu ce qu'il veut entendre. Parce que personne toujours va, il y a deux personnes, vous leur parlez, chacun va entendre ce qu'il veut entendre. C'est ça? Alors pour être sûr qu'il est en train pas d'imaginer et entendre ce qu'il lui veut entendre, il a demandé pour être sûr. Et quand il a confirmé pour la deuxième fois que la colombe a dit la même chose, c'est là qu'il s'est sauvé. Pour qu'on te dirige dans le chemin que tu veux te diriger. Mais toi, tu vas écouter ce que tu veux écouter. Ceci nous attache avec le prochain morceau qui est apporté dans la paracha. Dans la paracha, il est rapporté à propos d'un faux prophète. Qu'est-ce que c'est un faux prophète? Quelqu'un qui s'élève, il dit. Quelqu'un, un juif, qui s'élève un jour, aussi, il commence à faire des miracles. Il commence à faire des miracles, il commence à faire des lois, faites ceci, faites cela. Et là, la Torah dit faites attention, si c'est un faux prophète, il faut même le tuer. Il faut même le tuer. S'il y a des témoins comme quoi il vous a voulait vous enduire en erreur et vous voulait vous emmener vers l'idolâtrie, il faut le tuer. Maintenant la question est comment je dois savoir un faux prophète ou pas? Ça, c'est une chose, une règle que la Gemara dit même Eliyahu Hanavi, quand il viendra, il nous dira de changer une virgule dans la Torah. Une virgule. Il nous dit cette virgule elle n'est pas là. Vous la changez quelque part d'autre, on ne l'écoutera pas. La Torah, c'est jamais quelque chose qui va être changé. On ne peut jamais changer, même pas une virgule de la Torah. Alors n'importe quel prophète qui vient, il nous dit changer cette loi, c'est fini. Qui veut dire que si un prophète se lève, il dit moi je suis le nouveau Messie, il faut que vous posteniez envers moi. Ou il nous donne un nom d'idolâtrie, il dit cette idolâtrie, c'est l'idolâtrie, c'est le nouveau Dieu dans le monde, et c'est à lui qu'il faut se posterner, ou il faut faire telle chose ou autre chose. Là on ne peut pas écouter, il y a une mitzvah même de le tuer. C'est rapporté. Le grand Neuvi, il dit, que je vous ai dit une fois, cette idée de Rabbi Yaouville, là, il disait qu'à la fin de temps, à la fin, il y aura une guerre de 3 heures. À la fin de temps, il y aura une guerre de 3 heures. Et là, tout le monde se pose la question, quelle guerre va durer 3 heures? Est-ce que c'est une bombe atomique qui va terminer le monde en 3 heures? Qu'est-ce qu'il peut avoir en 3 heures? Là, ils disent, la guerre de 3 heures sera une guerre pas nucléaire ou avec des armes, ce serait une guerre spirituelle. Pourquoi? Il y aura un faux messie qui va se lever au monde, il va induire en horreur le juif. Et beaucoup de juifs vont le suivre. Beaucoup de juifs vont le suivre. C'est ça? Rien que ceux-là qui seront forts en leur croyance en Dieu, nous ne l'avons pas dans notre texte de prière. Mais les Ashkenaz, dans leur texte de prière de Sukkot, quand ils font le Hoshanot avec le lav, on tourne autour de la Seva, ils ont un passage là-bas, ils prient, Hachem, sauve-nous de ces 3 heures dangereuses. qui dire que moi je ne suis pas parmi ceux qui vont le suivre à ce faux prophète. Parce qu'il y avait beaucoup de faux prophètes dans l'âme Israël. Par exemple, je nomme le Shabtai Tzvi, Marchemo. C'est ça? Le Shabtai Tzvi, il a enduit en arrière beaucoup de juifs croyaient que c'est le Messie. Il a fait beaucoup de miracles d'ailleurs. Et là, le Messie aussi qui va se le faire, il fera beaucoup de miracles. Il arrête le soleil, il fera beaucoup de choses. Les gens vont être fascinés par la force qu'il fait et par le miracle qu'il est en train de faire. Beaucoup de juifs vont suivre ce faux prophète. Et là, on demande à celui de ces trois heures dangereuses que nous, quand les gens vont rester avec notre innocence, et on n'a pas à suivre ce faux prophète, on a à croire que dans la Torah. Malheureusement, il y a des gens, beaucoup de gens qui sont prêts pour une question de parnassa, une question de foi, à voir et aller chez n'importe qui pour une bénédiction. Et là, quand une telle prophète de telle ampleur va se lever et va faire des miracles, malheureusement, beaucoup de gens voudront le suivre. Et là, on demande à Hachem de ne pas être parmi ceux qui vont le suivre. Pourquoi encore? Parce qu'on te dirige là où tu veux aller. Si tu cherches ce type de choses, c'est sûr que tu vas tomber dans le piège de ce faux prophète. Et si tu ne cherches pas, tu cherches à être innocent. Tamim tiyim Hashem lokecha. Être innocent avec Hashem, avec l'Éternel, c'est sûr que tu trouveras. Et c'est ça la connexion avec le début de la paracha. Re'e anochi noten lifnechem. Vois, je donne devant toi deux voies. Et c'est à toi à choisir dans quelle voie partir, parce que tu pars et on t'aide à aller dans la voie que tu veux. Ça aussi, ça fait partie de cette épreuve. D'un faux prophète qui s'élève et il te dit dans un chemin que tu sais que Hachem n'a pas recommandé ce chemin, ça aussi ça fait partie de ta vie, là où tu as recommandé. Là encore, le prochain passage qui parle des animaux cachers et non cachers, c'est ça que c'est quoi le rapport avec les deux passages précédents. Alors il y a une histoire de Rav Ben Ishraï. Le Rav Ben Ishraï raconte une histoire de deux hommes, deux juifs, qui étaient sur un bateau, sur une croisière. Et le bateau a coulé en pleine mer. Tout cela qu'ils étaient sur le bateau ont arrivé à se sauver. Ils sont tombés en Espagne. Ça veut dire le bateau elle a coulé à côté de l'Espagne. Alors tout le monde s'en trouvait en Espagne. Là, chacun s'est dirigé dans un autre coin. Alors ces deux juifs-là aussi, chacun allait dans un autre coin. Alors ils sont rentrés dans deux familles. Et malheureusement, ils pouvaient plus suivre parce qu'on les aurait tués. Et ils ont mangé tout ce qu'on leur a donné à manger. Donc, ils sont restés là-bas une semaine. Et ils cherchaient un bateau qui va retourner dans leur ville. Et à la fin d'une semaine, ils ont trouvé le bateau. Les deux juifs sont rencontrés. Maintenant, un de ces deux, avant de la maison où il était hébergé pour une semaine, le propriétaire lui a dit, tu sais, ne crois pas que tu as mangé du non-cachère. Je suis juif aussi. Je suis pratiquant. Et tout ce que tu mangeais chez moi, c'est cachère à 100%. Il lui a emmené dans une cave. Il lui a montré où est-ce qu'il abat ses animaux, comment il enlève la graisse. Il lui a montré que tout le pain qu'il fait, c'est lui-même, c'est caché. Il lui a dit, mais je ne peux pas me montrer. Il était comment ils appellent ce juif-là, Maran, c'est ça, le Maran. Alors, il lui a dit, moi, je suis un parmi eux et tu peux partir avec esprit tranquille. Enfin, il monte sur le bateau, il voit l'autre qui monte avec lui. Et l'autre, il commence à pleurer, tu sais, je mangeais du non-cochère une semaine. Et l'autre est content. Il dit, pourquoi toi, tu es content? Tu n'as pas l'angoisse de manger non cachère? Il dit non, parce que moi, hein, là où j'étais, le gars m'a dit qu'il était cachère, il m'a montré qu'il était cachère à 100%. Et l'autre, ça veut dire qu'il a mangé du non cachère. Alors il dit, comment, alors l'autre, tout le voyage, il était en colère envers Akadosh Baruch Hu. Il dit, comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu ait eu la chance d'aller dans cette maison cachère et à moi d'aller dans l'autre maison non cachère? Et tout le voyage, il dit que ça, que c'est pas juste, jusqu'à qu'ils sont arrivés à leur place. Et ils sont partis voir le Rav Ben Ishraï. Quand ils sont voir le Rav Ben Ishraï, ils ont rencontré l'histoire. Le Rav Ben Ishraï lui a question. Dis-moi honnêtement, dans ta vie, tu mangeais toujours cachère? Tu n'as jamais triché à gauche, à droite? Quand tu n'avais pas la chance, tu n'as pas triché un peu? L'autre dit, écoutez, vraiment, en cas de force majeure, quand je n'avais pas le choix, c'est... Il me dit, mais tu as triché? Il me dit, oui, des fois j'ai triché. Il a posé la question à l'autre. Est-ce que toi, tu as jamais triché? Il dit non, jamais dans ma vie j'ai triché. Dans le cachère, j'étais toujours honnête, j'étais toujours cachère, quand je pouvais pas, je ne mangeais pas. Il dit voilà. Bader Shadam Oselech Molechimoto. Dans le chemin que tu vas dans ta vie, comme ça qu'on te dirige. Qui mangeait toujours cachère? Il n'a jamais triché, après je peux la diriger dans une maison cachère. Comme ça, il n'aura pas à défoncer et à casser le barrière qui lui s'est mis. Mais toi qui as triché des fois? Après je peux dire, de toute façon, c'est pas important pour toi, alors il t'a laissé aller, il t'a pas envoyé chez l'autre, mais il t'a pas fait arriver chez l'autre. Pour dire voilà, ça aussi c'est la connexion pour le cachère, c'est dans la direction que nous voulons aller. C'est la même chose, des fois il y a deux personnes qui vont manger quelque chose, on va manger à côté, C'est, ça dépend comment nous nous conduisons durant le reste de... Et la dernière, le dernier anneau dans cette chaîne, c'est dans la paracha de Tzedakah. La paracha parle de la Tzedakah. Et dans la Tzedakah, vous savez, une des questions qu'on se pose toujours, est-ce que le gars que j'ai donné, la Tzedakah, vraiment... Des fois, on se pose toujours la question, il n'a pas l'air honnête. On ne sait pas. Alors, qu'est-ce que la Torah nous dit à propos de cela? Comment on doit donner la Tzedakah? La Tzedakah doit se donner avec innocence. Tu donnes. Un gars, il vient, il ouvre la main, tu lui donnes. Maintenant, s'il a besoin ou pas, c'est son problème à lui s'il triche. Mais c'est aussi mon problème parce que si lui n'a pas besoin, hein, je n'ai pas donné la Tzedakah. Je n'ai pas fait la mitzvah de Tzedakah. Ça, c'est un argent qui est parti en vain. Et s'il a besoin, j'ai eu du mérite pour supporter dans le besoin. Mais comment moi je peux savoir? Moi, je ne peux pas savoir. Alors là, on te dit, ça dépend de ton désir. Si vraiment tu veux donner la Tzedakah, après du coup, on va t'envoyer des gens qui méritent de la Tzedakah. Et tu n'as pas à te poser des questions, est-ce qu'il a besoin ou il n'a pas besoin. Après, je m'en fous, te donnera la chance de faire bien. Après que tu poses la question, est-ce qu'il avait besoin ou pas. Ça, c'est entre le maître d'Akosh Baruch Hu. On peut pas savoir. Mais, ça dépendra de nous comment, qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on vraiment veut faire de bien, Akosh Baruch Hu va nous laisser la bonne chose. Et c'est pour ça que le prophète Jérémie, Irmiaou, en mode de la destruction du temple, juste avant la destruction du temple, quand les gens donnaient la Tzedakah, il y a des gens qui donnent la Tzedakah rien que pour se débarrasser d'un problème. Par exemple, il a fait un péché, alors il veut racheter son barinka. C'est aussi un niveau, il ne faut pas dire que ça vaut rien, ça vaut quelque chose, mais c'est un niveau très inférieur, parce que tu essaies de couvrir son péché par une Tzedakah. Bon, alors le prophète Yirmiyahu, il disait, il faisait une prière à Akosh Baruch Hu. Même quand ils voudront faire la Tzedakah, ça veut dire qu'il parle de son époque, même quand ils voudront faire la Tzedakah, on voit leurs dons qu'ils ne méritent pas. Et de telle manière, leur Tzedakah ne compte pas. Et là, ils n'auront pas le mérite de la Tzedakah. Pour dire que vraiment, c'est un mérite quand on donne à quelqu'un qui n'est pas faire, qu'on aura ce mérite de donner notre pensée. Ça, tu ne le donnes pas pour te dégager d'un péché, tu le donnes vraiment pour le aider et pour faire la mitzvah de la Tzedakah. Qu'est-ce qui va arriver à Tzedakah? C'est Akol Yochou qui va dire Bader Shadam Oselalech. Dans le chemin que tu veux aller, Akol Yochou te dirigera. Tu veux le faire bien, Akol Yochou tu trouveras des gens avec qui tu pourras bien faire cette mitzvah. Alors, ça, c'est la connexion dans toute la paracha, dans les deux chemins, la bénédiction, la malédiction. C'est à nous à choisir. C'est réé, c'est au singulier. C'est à toi à choisir. Et là où tu voudras aller, on te dirigera. Pour le bon, on t'aidera. Pour le mauvais, on t'ouvrira. Ça veut dire pour que tu fais ce que tu veux. Mais tu entends, qu'est-ce que tu veux entendre? Mais si tu veux bien entendre, Akosh Baruch Hu te donnera la chose de bien entendre. Le faux prophète, qui est l'histoire du faux prophète, c'est aussi une question de bien choisir le chemin. Ça veut dire, si je suis de la Torah, Akosh Baruch Hu me dirigera pas dans le piège de... Les animaux, le cachet ou non cachet, c'est un exemple, pas tricher, de la manière à quoi je peux diriger le roi, et aussi la Tzedakah, quand tu peux faire la Tzedakah, quand je peux te diriger à ceux-là qui ont vraiment besoin pour que la mitzvah compte à 100%. Oui. Non, il ne faut pas chercher, exactement. Tout juif qui tend la main, il faut lui donner. La question est, il faut savoir, s'il ne mérite pas, ça veut dire si ce n'est pas quelqu'un qui est nécessiteux, vous n'avez rien fait. Et ça, il faut savoir. Toi, tu l'as fait avec bonne foi. Ça. Tu donnes. C'est ça qu'on dit. Toi, tu donnes. Mais est-ce que tu as eu le mérite ou pas? C'est ça qui dépend. S'il n'est pas nécessiteux, tu n'as pas le mérite. Ou s'il a triché, tu n'as pas le mérite. Ça. Oui, on ne sait pas. Nous, on donne.
Il vient avec des dossiers.
Il y a plein de
dossiers.
Alors, on lui donne un peu moins. Ça veut dire que. Ça c'est déjà, oui. Mais ça veut pas dire qu'ils n'ont pas besoin. Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas besoin. On dit que en hébreu, il y a une différence Il y a Ani. Ani, c'est un pauvre. Il y a Evion. Evion, c'est plus qu'un pauvre. Misérable, ça, c'est le misérable. C'est plus que. La différence entre les deux. Le pauvre, quand il a besoin de la donation, il va venir chez la porte, à côté de la porte d'un riche. Quand il va taper très doucement. Parce qu'il a peur, qu'est-ce que les riches vont dire, comment ils vont me recevoir. Le misérable, il frappe fort sur la porte. Il n'a rien à perdre. Il y a des gens qui n'ont rien à perdre. Ça veut dire qu'ils sont arrivés à un point manger qu'ils ont. Alors déjà, quand ils vous demandent d'aller d'une manière arrogante, tout ce que vous voulez le qualifier, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont faux. Ça veut dire que peut-être qu'ils sont arrivés à tel niveau qu'ils n'ont rien à perdre. C'est ou qu'ils sortent avec quelque chose, ou ils sortent avec rien. C'est ça, deux fois, c'est faux. Mais encore, on ne peut pas choisir. Mais seulement on demande à Hachem, quand tu m'envoies ce type de personne, envoie-moi le bon. Des fois, on peut voir déjà. Des fois, on peut voir. Mais alors, on leur donne moins que ce qu'on aurait.
Non, revenons à cette idée, parce que c'est une illusion. C'est pas le même. Moi, est-ce que c'est normal, et puisque je reçois le mérite, si, puisque je prépare ces enfants en bloc d'avance, et qu'il y a des gens, des religieux, whatever, ils paraissent plus, c'est-à-dire que ce qui a continué, whatever, ils rentrent, et je dis à mes vendeurs, je dis, ok, dès qu'ils rentrent, tu vas savoir que c'est bien pour vous, the boss. I'm not here. Il peut tendre l'enveloppe que j'ai préparée, ça c'est le mérite que c'est moi qui l'ai donné, mais je n'étais pas présent, donc c'est moi qui l'ai donné, c'est pas sûr.
Oui, c'est la même chose. De toute façon, si c'est l'enveloppe. C'est ça, je ne vais pas le donner. Non. C'est ça. Si c'est un rabbin en n'importe quoi religieux, on ne peut pas lui tendre ni l'argent ni l'enveloppe. Pourquoi ? C'est ça, il faut le poser. Ça, de toute façon,
oui,
tu peux pas les.
Ils n'ont jamais négocié par rapport à.
Oh, pas de problème, mais de toute façon, par rapport à ta question, voilà. De toute façon, ça veut dire par rapport à ta question, il ne faut pas les donner dans la main. Donc, tu le donnes toi, ou tu le donnes sur la table, ou quelqu'un de l'autre le donne, c'est la même chose. C'est la même chose. Bon.
C'est ce que vous dites par rapport à le. Mais je sais que
bon. Pour la prochaine fois, vous saurez. Bon, alors ça c'est pour la paracha, je voulais vous parler un peu, ce Shabbat, ce samedi, on a parlé un peu de la faute de la Ketubah, comme c'est l'époque du mariage, Baruch Hashem, ça reprend, tout le mariage, ça reprend maintenant. Alors j'ai parlé un peu à la fois ce samedi, et j'ai vu beaucoup de gens, il y avait des gens, des points intéressants que les gens ne savaient pas. Alors je dis, on va en parler aussi dans le cours, ici, pour soulever ce point. Donc, comme j'ai expliqué samedi, la Ketubah c'est la mezouza du couple. Comme il y a un mezouza sur la porte, il y a un ketouba. Quand on dit, quand un couple, il voit qu'il y a trop de problèmes, trop de friands, trop de. La première chose à faire, c'est la ketouba. À vérifier la ketouba. Oui, bien sûr. Parce qu'il peut avoir une erreur. Il y a quelqu'un qui s'est divorcé il y a 2 semaines. Il m'a dit des années qu'il était marié. Il était marié avec sa femme. Quand il est arrivé devant le demande de la ketouba, il a vu qu'on a écrit le nom de sa femme faux. Ça lui a pas changé l'idée de divorcer sa femme, mais pour vous dire, il y avait. Comment ?
Oh.
Non, c'est pas caché.
Bon,
non,
c'est pas caché.
Je vais expliquer. Attendez, j'explique tout là. Quoi. S'il y a quelque chose qu'on n'a pas touché encore, il y a beaucoup, mais je peux pas toucher. Mais on va essayer de toucher le point essentiel. Et ce point-là. Alors, quand je vous ai dit la mezouza, c'est quoi une mezouza ? C'est le reflet du mariage. Ça, et tout. Alors, s'il y a beaucoup de problèmes, on ne doute pas, on ne parle pas d'un incident ou des incidents qui arrivent tout le temps, c'est normal. Mais couramment de disputes, tout ça, la première chose à vérifier, c'est la ketouba, sinon la mezouza. Maintenant, dans la ketouba, il y a certaines règles à respecter. Comme c'est un décomment, le gars, c'est la Torah, il y a certaines règles à respecter. Une chose. Dans la ketouba, a priori, il vaut mieux pas qu'il y a de choses effacées. C'est-à-dire que la ketouba a été écrite lisse, sans avoir effacé. Ça, c'est a priori. C'est pour cela qu'il y a des certaines autorités qui n'aiment pas la ketouba écrite sur un parchemin. Parce que sur le parchemin, il y a un risque d'effacer. Ça, quand c'est un ketouba tapé à l'ordinateur ou déjà pré-écrit tout ça, s'il y a l'heure, on peut changer. Quand c'est une ketouba que tu as payé 1 000 $ ou 1 500 $ sur un parchemin avec un beau dessin, s'il y a une erreur, tu l'effaces. Mais il y a une fassure dans la. Bon. Alors, a priori, il faut essayer d'avoir un ketouba sans faute. Vraiment sans faute. C'est pour ça qu'il faut qu'avant que le gars que vous choisissez, qu'il écrive votre ketouba, il faut lui donner tout le détail de A à Z, comme ça il ne se trompe pas. Et avec cela même, il peut avoir des erreurs. Le jour, ces erreurs, normalement, ils se trouvent le jour du mariage. Parce que normalement, le couple, il garde. Au contraire, il ne faut pas garder la ketouba jusqu'au jour du mariage. Il faut aller tout de suite montrer au rabbin à qui va marier le couple, il faut lui montrer la ketouba déjà écrite quelques jours avant le mariage. Que s'il y a quoi que ce soit, c'est bon, parce que le jour du mariage, tout le monde sont des nerfs, ils sont pressés, ils n'ont pas la tête. Alors, et des fois, on ne peut pas même pas l'arranger. Des fois, s'il faut effacer un mot, d'où tu vas avoir un petit couteau pour gratiner. C'est pour ça que tu as dit que la ketouba, il y a des liquid paper. Ça doit être... Oui, c'est pas caché le liquid paper.
Non, on l'a refait.
Ah, tu l'as refait, c'est bon.
Dernièrement.
C'est ça. Mais pour dire que il y a des choses que. Ça, c'est une chose. Deuxième chose.
Le parchemin original avec qui on a été sous la coupe et tout ça, est-ce que c'est vrai que si par des années on refait notre bocal en plus de budget, alors ok, on le met dans la salle à manger?
Oh, c'est le prochain arrêt que je voulais vous dire.
L'original et le mettre en dessous de le cadre.
Non.
On va dire que ça est, je connais, j'ai vu ta ketouba, ça m'était dit, j'ai vu ta ketouba à ton mariage, je n'avais pas cette allure. Alors, où est-ce qu'elle est la
nuit? Non, ça n'a rien à voir.
Il faut la mettre.
Au contraire, d'abord, quand on écrit une deuxième ketouba, il faut détruire la première. La femme ne peut pas avoir deux contrats. La ketouba, c'est un contrat de mariage. Alors, tu ne peux pas avoir deux contrats de mariage quand tu fais une affaire. C'est comme si tu veux tricher. Quand on jette, tu vas sortir ce papier. Quand ça va t'arranger, tu vas sortir l'autre papier. On ne peut pas. C'est un ou l'autre. On ne peut pas avoir deux ketouba. La femme a besoin d'avoir une seule ketouba. Deuxièmement, la ketouba, c'est un document légal de mariage qui ne se dispose pas au public. Qui veut dire, c'est pas à mettre dans un cadre. C'est à mettre dans un rouleau et à cacher. Où on le cache? Normalement, la maison des beaux-parents, c'est-à-dire les parents de la fille, de la femme. Normalement. Seulement, ce couple habite dans la même ville que le marié. Si le mari va déménager dans une autre ville, alors là, la femme doit le prendre et il est interdit pour un homme d'habiter avec sa femme un jour sans ketouba. Qui veut dire, si la ketouba était perdue, le jour même, il faut écrire notre ketouba. Chaque jour qui passe, c'est un péché. Chaque jour qui passe sans ketouba, c'est un péché. Alors, c'est pour ça que des fois, on pose la ketouba quelque part et après, on oublie. C'est ça? Non. De temps en temps, il faut la sortir, la secouer un peu, l'aérer. C'est ça? Pour que c'est peur. Comment? Jamais. La ketouba, ça n'expire jamais. C'est tous 120 ans. Bon. Maintenant, une autre chose. La ketouba, il y a deux. Il y a Ashkenaz et Sepharad. L'Ashkenaz, elle n'est pas bonne pour le Sepharad. Et le Sepharad, elle est bonne pour l'Ashkenaz. Et la différence? Non, ce n'est pas, ça ne fait pas la différence. Alors toujours le mari, selon le mari. Si le chaz, la ketouba est ashkenaz. Si le mari est séfarad, mais la fille est ashkenaz, ketouba est séfarad. Et je vous explique la différence de ketouba, séfarad. Dans la ketouba, il y a une somme, la somme minimale, et la somme qu'on ajoute à la fille. C'est ça qu'on lui donne en plus. Qui veut dire, la somme minimale pour une fille, c'est écrit dans la ketouba. Sa fille est vierge, c'est 200 pièces d'argent. Ça, s'il a été déjà marié avec quelqu'un d'autre, c'est 100. 100 pièces d'argent. Maintenant, il y a une discussion dans le Shulchan Aruch. Ces 200 pièces d'argent, quel type d'argent? Argent massif, pur, ou l'argent, quand on parle de l'argent, c'est l'argent du pays, qui veut dire argent mélangé. C'est mélangé avec du cuivre. Le Shulchan Aruch, en connaissant ses phrases, dit que les 200 pièces d'argent ne sont pas pures, c'est de l'argent mélangé. Qu'est-ce que c'est ça? Qui veut dire que, selon le Shulchan Aruch, il dit que si nous ferons le total de l'argent massif qui se trouve dans 200 pièces d'argent, ça nous donnera 25 pièces d'argent pures. Alors on écrit dans un ketouba séfarad, le Khatan il a donné à la Ka 200 pièces d'argent qui sont en argent pur 25. C'est comme ça qu'on écrit. Ou ici c'est 100, on écrit il a donné 100 qui sont en argent massif 12,5. Ça c'est ketouba ashkenaz, c'est différent. C'est 200 pièces d'argent pur. C'est pour ça qu'ils écrivent pur. Mais Zekoukim. de l'argent raffiné. Ça veut dire qu'il est pur. Ça, alors ça fait déjà une grande différence. Où est-ce qu'on trouve, que la, quand on parle de l'argent, c'est de l'argent massif, que dans la Torah. Dans le texte de Chachamim, le Talmud, quand on parle des autres textes, toujours l'argent, c'est l'argent du pays. L'argent. Alors c'est pour cela que l'Ashkenaz doit ajouter 200 pièces d'argent massif selon la Torah. Mais nous, on ne peut pas écrire selon la Torah. Donc nous, c'est faux. Alors qu'est-ce qui arrive? C'est un coup séfarade. Prends une coupe basse. Ils écrivent 200 pièces d'argent. Et ça, le texte est déjà écrit. C'est écrit massif selon la Torah. Mais c'est pas vrai. Selon le séfarade, c'est pas de l'argent massif. C'est pas selon la Torah. Notre argent, c'est 25 pièces d'argent pur. Sage, pas sur la Torah. Alors déjà, ce détail-là, il ne le rend pas saoul. Dans certains opinions, ça ne rend pas saoul. C'est pour ça que quand on choisit une ketouba, il faut choisir un texte séfarade et pas un texte ashkenaz. Si l'ashkenaz est contraire, ce n'est pas grave. Maintenant, là-dessus, ça c'est le strict minimum. Là-dessus, on ajoute. Combien on ajoute? Alors là, c'est écrit, il ne faut pas trop ajouter, il ne faut pas exagérer, ça veut dire pas peu, trop peu. Pas trop peu et pas trop. Comment? Ça veut dire que, il y en a, quelqu'un m'a dit, c'est le Shabbat, il m'a dit, c'est le nouveau style des millions de dollars.
Non,
5 millions, c'est bon. Alors, qu'est-ce que la Gemara dit à propos de cela? La Gemara dit, il faut faire attention. Quand quelqu'un écrit ça à sa femme, la femme a déjà des idées. De toute façon, si je me divorce, j'ai 1 million dans la poche. Ou 5 millions, encore mieux.
C'est ça?
Oui, mais au moins un peu, il faut comprendre qu'aujourd'hui, le tribunal civil prend en considération la ketouba. Oui. C'est ça? Alors il prend en considération la ketouba. C'est ça. Alors si le gars il a fait cette lire, alors tu vas travailler. Tu vas prendre un emprunt. Voilà. Okay. Il ne faut pas donner des idées. C'est ça. Normalement, okay, il ne faut pas donner trop peu. On essaie des comptes qu'ils ont un certain piquant, qui une significance. Signification. Par exemple, c'est ça. On écrit 52 000 dollars. 52 000 dollars, on va aller dire que c'est d'un, d'accent. Pour 10 personnes. Ça, il y en a qui écrivent 18 000 dollars, on va dire. Donc, alors, c'est high, 36 000 dollars, c'est 2 fois 26. Deux fois 18, ça. Alors, on essaie de prendre des sommes qui ont une certaine allusion, qui vont allusion à quelque chose. Ça, alors, c'est, la somme, c'est pas inventé, la somme, c'est quelque chose qui va signifier quelque chose. Ça, alors, la ketouba de la séparade, et quand on choisit une somme, aussi qu'il faut qu'il soit une somme qui est raisonnable et qui a une certaine significance sur la Torah.
C'est en cas de divorce,
c'est quoi? Oui, en cas de divorce.
Et mais qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu un divorce et puis la femme elle fait plus d'argent que l'homme, c'est la femme qui doit verser.
Non, pas genre. Ça c'est selon la loi civile. La loi civile. La loi civile décrète c'est que c'est 50-50%. C'est dans la loi civile, pas sur la Torah. Là. Sur la Torah, la femme ne paye jamais, c'est l'homme qui doit payer. Hein? Civil, mais pas. C'est autre chose. Bon, autre détail. Quelques autres détails pour la ketouba. Quelques détails. Alors, la ketouba, ça ne s'accroche pas. Les témoins. Un des détails les plus importants de la ketouba, c'est le témoin. Il faut que le témoin soit absolument shomer Shabbat, c'est ça, qui ne se rase pas avec une lame, quand si le monsieur se rase, ce ne soit jamais avec une lame, et il faut qu'il soit avec aucune relation au couple. C'est-à-dire pas un arrière-temps oncle, un cousin germain, aucune relation.
La relation pour pouvoir être témoin.
Non, quelle
relation?
Pas relation familiale.
Le témoin, c'est
hein?
Non, le témoin, c'est celui qui va
signer votre ketouba. Parce que la ketouba, à la fin, il y a deux témoins qui vont signer. Deux témoins, il faut qu'ils soient shomer Shabbat, il faut qu'ils aient bien des mitzvot, et il faut qu'il n'y ait aucun lien familial. C'est ça, entre vous, ni du côté de la femme, ni du côté de l'homme. Parce que s'il y a moins de liens, deux fois la ketouba peut se rendre complètement pas fou, c'est comme si vous n'êtes pas marié. C'est pour ça que toujours, ça, il faut le planifier en avance. Parce que des fois, qu'est-ce qui arrive? On arrive dans la salle et on a honte de la famille. On a honte de la famille. Maintenant, le rabbin, des fois il pose la question, des fois pas. Il faut qu'il pose la question. est-ce qu'il y a entre vous et le marié? C'est ça? Mais si la question n'a pas été posée et vous lui emmenez deux témoins, il se peut, il est arrivé déjà un cas comme ça, il se peut que les deux témoins, c'est ça. Alors il y avait une ktouba ici qui a été écrite par deux beaux-frères. Il y avait deux beaux-frères. Le rabbin n'a pas fait attention. C'est l'obligation du couple. Le rabbin va peut-être faire l'erreur. Oui, mais il peut la corriger après. Mais c'est le couple qui prend les conséquences. Alors il ne faut pas que le couple choisisse de bons témoins. Alors il y a les deux contrats. Quand on signe la ktouba, le contrat civil, le mariage civil. Dans le mariage civil, on peut mettre un frère, un cousin, n'importe quoi. Ça, on peut avoir. C'est ça, civil. C'est ça, le contrat civil. Mais dans le contrat de ktouba, il n'y a aucun lien familial.
C'est toujours la même chose comme les rabbins, ils posent la question, est-ce que vous avez des liens?
Normalement, oui. Normalement,
il faut poser. C'est ça.
C'est ça. Oui et non, oui et non, parce que aussi c'est vous.
La majorité des gens ne savent pas.
Peut-être, oui, s'ils ne savent pas.
Parce que l'on nous a dit qu'il fallait que ce soit un imam tout bas.
Non, pas du tout.
Ça c'est avant la coupa, n'est-ce pas?
Oui.
Nous avons dit qu'il fallait avoir un mon père et mon frère.
Oh, l'imam tout bas?
Comme témoin, on m'a dit qu'il fallait bien.
Le civil, ça s'appelle le civil, pas le.
Non,
mais
ça fait
pas
non. Alors, ça veut dire quoi?
De toute façon, jusque-là, vous avez une question pour ça? Non, deux hommes et adultes, plus que 13 ans. Le civil peut avoir une femme. Oui. Je vais laisser une femme témoin. Vous lui enlevez, vous la roulez, vous la mettez dans un tube, vous la mettez dans.
Les gens là qui font de l'artiste et du artisanat.
Ça ne vaut rien. Est-ce que quand vous achetez un magasin, vous faites un contrat, vous l'accrochez sur le mur. C'est quelque chose. C'est combien vous mettez dans la femme tout ça, c'est pas quelque
chose.
Non, on va vous vendre tout ce que vous voulez acheter. Comment on dit, bagage Shalom au CLR. Là, qu'est-ce que vous voulez faire, vous le donnez. C'est à vous à savoir que c'est un contrat intime entre vous et votre mari, et personne n'a besoin de savoir combien de la somme là que tu vas.
Si on repose la question d'une autre façon, si vous étiez, excusez-moi,
pas moi, quelqu'un d'autre.
Si un religieux de notre communauté, il est artiste, il compte ça pour les jeunes mariés, et sachant que c'est un art qui va exploser dans leur salon, donc ils incluent à cette pratique de la présenter malheureusement devant leurs invités ou à leurs invités. Sans le dire, sans le mentionner, qu'il ne peut pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Il prend
un
péché donc, parce que nous, on est
naïfs,
on n'est pas au courant que.
C'est pas un péché.
C'est pas un péché, ça ne nous
jugera pas. Non, c'est pas ça.
Non, mais il ne faut pas s'exciter avec des.
C'est exactement. C'est pas un péché comme tel, on a transgressé un commandement de la Torah. Mais c'est pas conseillé. C'est pas quand vous accrochez pas votre contrat de. Vous avez acheté un magasin en quelque chose comme ça, vous l'accrochez pas dans le salon, même chose.
Vous avez pas
et on peut plus ça.
On ne peut pas comparer les choses, si on ne peut pas
l'accrocher. Non, ça je dis non. Non. C'est quelque chose qui est. Qui n'est pas fait à disposer de.
C'est
une question ici. Si on veut, ça rentre dans la question de la fluidité, c'est ça, la pudeur.
On va prendre une autre situation. Moi, disons, moi, j'ai un magasin pour vendre des choses. Quand je vois la beauté, les gens qui viennent, les juges, je sais qu'ils ont. Je ne vais pas leur dire pas ça trop, c'est pas snoot.
Non.
Ils choisissent ce qu'ils vont acheter.
Voilà. Cette question, ça a été débattue déjà il y a 1000 ans. Et comme il y a beaucoup de mariés, même religieux, qu'ils achètent telle robe, mais ils ajoutent après des morceaux. C'est ça? Alors vous n'allez pas leur poser la question, est-ce que vous vendez tel, le matériel comme ça?
Et si vous posez la question, c'est quoi ces parades, c'est quoi la limite, ça, je peux répondre.
Oui, tu peux répondre.
Je me dis, est-ce que ça se fait de mettre? Ça dépend de vous. Moi, non, je ne porterai pas. Mais ça dépend de vous.
Non, si c'est un client tignoute, il faut que tu l'aides.
Non, moi j'en dis moi, personnellement, je ne porterai pas cette robe parce que moi je suis à un niveau où je porte la pique et tout ça. Moi je vais porter une robe à bretelles premières, à petite bretelles spaghetti, mais je vais porter un chandail fermé ensuite. Mais ça c'est moi.
C'est ça.
C'est comment je vais l'exposer. Mais je ne suis pas comme l'artiste qui va voir l'idée acheter un peu de là, sans leur dire que c'est péché. C'est quoi la différence?
Il faut comprendre, c'est ta. C'est ça.
Non,
c'est ça, exact.
Moi, je peux pas prendre responsabilité pour qu'est-ce qu'ils choisissent. Moi, je suis marchand. Mais je pense que la personne qui est religieuse, qui fabrique un art, qui est péché à exposer,
non.
Qui
sait que le encore, quel type de péché? C'est pas péché et paix.
Pas
conseillé. Pas conseillé. Mais ce même. Il a des autres arts, c'est sûr qu'il a des autres ktobot, c'est ça? Alors là, que vous savez, vous lui dites non.
Mais finalement, pour ceux qui ont la ktoba, qui ont des témoins qui ne sont pas religieux, comme vous dites, leur ktoba est toujours valable?
Non.
Non.
S'ils ne sont pas à Shomer Shabbat, il faut non, pas le mariage, il faut refaire le contrat avec deux autres témoins. On ne fait pas le mariage.
Tout ce qu'on fait. Bah,
j'ai bien
pensé. La première Kitouba d'accord, elle a été signée, mais ce
nouvel encadrement, ça n'a pas été signé par un témoin. Comment?
Quand on refait une
Kitouba? Oui. Tu ne peux pas refaire une Kitouba. On ne peut pas refaire une Kitouba.
Si elle a une erreur,
quand une Kitouba est une erreur, alors quand une Kitouba est une erreur, il y a un nouveau texte qui doit remplacer cette Kitouba. C'est plus le même texte. Ça veut dire que tu ne peux pas prendre là le texte que tu as fait il y a 10 ans ou 20 ans et de le recopier, non. Il y a un nouveau texte, il faut aller devant un rabbin et devant deux témoins. C'est un nouveau texte qui va être écrit. Ça veut dire que si vous l'avez fait sans rabbin, tout ça, c'est faux. C'est aussi, ça ne va pas.
Elle a jeté l'ancien, le nouveau n'est pas bon.
Ce n'est pas bon.
Bon, alors, vas-y.
Rendez-vous. Je pense qu'on va faire
les problèmes.
C'est tout. On va être chez la semaine prochaine.
Allez, vous avez